Bure, petit village dans la Meuse, où l'industrie nucléaire et l'État veulent creuser un immense trou et y mettre, pour l'éternité, disent-ils, tous les déchets les plus dangereux produits par l'industrie depuis le début de son fonctionnement. Ici, dans l'est de la France, se joue la survie d'une industrie aux abois. Régler enfin la question des déchets, les mettre dans un trou, le refermer et tout oublier. En face, depuis 30 ans, une lutte joyeuse, créative, florissante et radicale. C'est un voyage dans cette lutte que je vous propose dans cette saison spéciale d'Un déjeuner chez Bernard. C'est parti. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard. Je continue mon périple dans la Meuse et je suis donc chez Régine Milarakis. Et aujourd'hui, on va parler d'expertise citoyenne. Parce qu'il me semble que dans tout ce projet, j'ai croisé énormément de personnes qui sont montées en compétences, comme on dit, et qui ont creusé. Alors hier, j'étais avec Corinne, qui était capable de me parler de tous les rapports parlementaires, de l'article 6, c'était incroyable. Et quand on discute avec elle, on sent qu'il y a une connaissance derrière acquise au fur et à mesure du projet. Et on m'a parlé de toi aussi comme une spécialiste de toutes les questions autour de CIGEO, de coûts, de géothermie. Enfin voilà, donc on va parler de tout ça. Mais d'abord, j'aimerais savoir un peu comment toi, tu es rentré dans cette lutte et quand est-ce que dans ta vie, tu as croisé ce projet ?
Alors moi, je suis rentrée dans la lutte antinucléaire très tôt, donc j'avais une vingtaine d'années, parce que j'habitais à côté de Dunkerque et que j'ai vu s'implanter donc la centrale de Gravelines, donc une des plus grosses de France. Et parallèlement à ça, je m'étais engagée aux Amis de la Terre de Lille et je suis passée par le Larzac. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui m'a fait comprendre. Alors, je suis de milieu ouvrier aussi. Et ça, je pense que ça a joué aussi beaucoup. Ça m'a fait comprendre que si un jour des projets devaient nous malmener, eh bien, il n'y avait qu'une seule chose de possible, c'était de ne pas les accepter et de résister par toutes les manières possibles. J'ai donc lutté contre la centrale de Gravelines. J'ai côtoyé les agriculteurs que j'avais découverts au Larzac et qui avaient cette vision magnifique de la terre et de la terre partout dans le monde. Ça m'avait vraiment beaucoup frappé, beaucoup ému. Et je les côtoie toujours d'ailleurs. C'est vraiment des gens qui ont un cœur immense et les mains dans la terre, quoi. Comme moi ici d'ailleurs. Et quand je suis arrivée en Meuse, parce que voilà, je me suis mise en couple avec un forestier, j'ai découvert la forêt et j'ai enragé de ne pas pouvoir lutter contre Soulaine qui s'est implantée à ce moment-là. Parce que j'avais des enfants tout petits, que j'avais pas trop de moyens de locomotion, voilà.
C'est quoi Soulaine, excuse-moi ?
Alors Soulaine, c'est c'est pas le projet d'ailleurs, c'est le centre de stockage des déchets radioactifs à Vicourt, qui est à côté du lac d'Uder, donc pas loin d'ici. Et moi j'étais à l'époque à Beaulieu, donc quand même largement plus dans le nord de la Meuse. Et je m'étais bien promis que si un jour, à partir du moment où j'aurais du temps, eh bien, je ne laisserai plus passer aucun projet nucléaire. Alors ça, je ne savais pas qu'il nous arriverait en Meuse, évidemment. Mais pour moi, ça a été le projet nucléaire de trop, quoi.
Et qu'est-ce qui faisait que tu étais anti-nucléaire à 20 ans quand tu étais à Dunkerque ?
Alors, la raison principale pour moi, c'est que le nucléaire, c'est vraiment pas comme n'importe quel autre projet. C'est-à-dire que, par exemple, l'apogée industrielle, qui pollue une rivière, qui pollue l'air, etc., il va dégrader la santé d'un certain nombre de gens. Mais si on veut, si on peut, on peut quand même s'en éloigner, ce qui n'est pas du tout le cas du nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire, alors c'est vrai aussi de l'industrie très sale, très polluante, qui parcourt la planète par les vents, etc. Mais Le nucléaire a ceci d'incroyablement dévastateur, c'est qu'il est partout déjà, en tout cas en France, et aussi qu'il atteint la génétique des populations. C'est-à-dire que quand il y a un accident ou un incident nucléaire, même à faible dose, quand on est en permanence soumis à la radioactivité, on sait que ça nous atteint. Et ça nous atteint dans notre... pas seulement nous, mais ça atteint les générations qui nous suivent. Et ça, je trouve que c'est... On est en train de faire mourir de cette manière-là la bonne santé des populations de par la planète. Quand on pense que, par exemple, dans certaines zones touchées par Tchernobyl... Moi, je fais partie de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus, qui essaie de diminuer le taux de produits radioactifs dans le sang ou dans l'organisme des enfants, notamment. On sait que, par exemple, dans certaines zones polluées, il y a 80% des enfants qui sont malades et qui vont mourir de maladies de vieux. C'est absolument terrifiant. C'est vraiment la raison pour laquelle je ne peux pas supporter. Je pense qu'il y a beaucoup de pollutions qui vont nous suivre très longtemps dans le temps. Mais celle-là, elle est vraiment terrible.
Et tout à l'heure, tu as aussi dit « je suis de condition ouvrière ». Et en quoi ça joue, tu penses, dans ton chemin ?
Alors, il y a deux choses. Il y a mon tempérament aussi. Mais c'est vrai qu'en étant née dans une famille ouvrière... Moi, je sais ce qu'ont vécu mes parents, mes grands-parents, à quel point ils ont dû ramer. Et je sais que c'est grâce à eux que peut-être je ne suis pas allée en usine, comme les filles de ma condition, en fait, à l'époque. J'étais une des premières filles à passer le bac et à faire des études. Les autres allaient toutes en usine. Et puis, il y avait autour de moi les gens qui partaient dans les mines du Nord ou les gens qui étaient marins en Islande et qui mouraient en mer. Donc moi, je rends grâce à ces générations qui ont permis que moi, je vive mieux et bien même.
Et donc, quand est-ce que ici en Meuse, tu commences à entendre parler de ce projet? Et c'est dans quel cadre? Tu vas à une réunion d'information? Enfin, comment ça se passe?
Alors moi, j'en entends parler très très tôt parce qu'en fait, je fais partie de Meuse Nature Environnement donc, et du mouvement FNE. Et en fait, à l'époque, on a une invitation émanant de la préfecture parce que Christian Bataille vient dans le département pour nous expliquer que peut-être on pourrait faire un laboratoire en Meuse.
Ça, c'est quelle année?
Alors, c'est 94 ou 95. Okay. Tout au début. Ouais, c'est la début. Toute première réunion. Okay. Et à cette toute première réunion, ce qui m'a le plus choquée, c'est que, c'est pas habituel en tout cas, c'est qu'on réunit d'un côté la société civile, de l'autre côté le monde économique, et puis par ailleurs les élus. Christian Bataille vient avec à la préfecture nous parler à chacun séparément. Et ça déjà... Je trouve ça bizarre. Parce que, en général, quand il y a une grande messe préfectorale, eh bien, on est tous ensemble autour d'une table. Là, non. On était chacun séparés.
Et comment tu le comprends sur le moment?
Je me dis que. Qu'est-ce qui a pu se raconter vers les élus? Qu'est-ce qu'on a dit au monde économique? Et d'ailleurs, quand on vient présenter un projet dans un département. Et que ce projet, on va valoriser le côté économique, on va le vendre aux élus. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter aussi de le faire accepter par la population. Alors, c'était peut-être pas aussi clair dans ma tête à ce moment-là, mais ça s'est vraiment vérifié à 200% par la suite, quoi.
Et donc, comment est la suite de ce projet pour toi? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la lutte? Quand est-ce qu'à un moment, tu te dis... il faut que je creuse les dossiers, il faut que, enfin, Raconte-moi un peu ton parcours, quel choix tu fais dans ces collectifs-là, quoi.
Ben, le premier choix, ça a été de faire une réunion publique à Bar-le-Duc. Et à cette réunion publique, donc, on explique ce qui nous a été présenté par la préfecture. Et entre-temps, on avait quand même, on s'était documenté un peu, on savait qu'il y avait déjà eu d'autres départements qui avaient été concernés et qu'il existait donc un moratoire rocard qui avait, devant la levée de boucliers qu'il y avait dans tous ces départements, avait dit il faut se poser et il faut retravailler la manière dont on va présenter ce projet de laboratoire par ailleurs, quoi. Voilà, donc, et à cette première réunion, ben, on avait les renseignements généraux. Donc là, c'était parti. On a compris que l'heure était grave et qu'il fallait qu'on se mobilise.
Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'expertise citoyenne, je t'ai vu réagir parce que je sais que tu ne te considères pas comme une experte. Mais en même temps, je vois bien que tu as beaucoup travaillé des questions qu'on peut considérer comme techniques. À quel moment tu considères que c'est important pour toi de travailler la question de la géothermie ou des coûts du projet ?
Ben, en fait, sur ce projet, on ne savait rien. Il n'y avait pas de documents, on a de production de documents qu'à partir du moment où on a une échéance administrative. Donc, par exemple, on a une enquête publique parce que le laboratoire va s'implanter à Bure. Donc là, on commence à avoir des documents. Moi, je n'ai pas été la première, en fait, à travailler sur... Enfin, la première. Je n'ai pas été dans les premières à travailler, ou dans les premiers. En fait, on peut dire que l'expertise citoyenne, c'est quelque chose qui est vraiment collectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, se disent « Mais comment je vais faire pour informer la population si je ne sais pas de quoi je parle ?» Donc ça, c'est la première des choses. Et pour savoir de quoi on parle... Eh bien, on a d'abord commencé par contacter les copains qui avaient lutté ailleurs, parce que c'est eux qui avaient cerné déjà un peu ce projet. Et puis, on a demandé au pouvoir public, à l'ANDRA, de nous fournir un certain nombre d'explications. Mais aujourd'hui, comme tout au début, on n'a jamais eu que des explications extrêmement vagues et pas précise du tout, c'est-à-dire que on va nous décrire un projet, mais on va pas nous dire sur le plan de la santé il se passe telle chose. Pour creuser, on pourrait être confronté à tel problème technique. Les déchets radioactifs, ça amène tel souci particulier. Par exemple, au début, on nous a pas parlé des déchets bitumés. Et pourtant, on sait que ça pourrait produire des risques extrêmement graves. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les personnes qui avaient des compétences, par exemple Bertrand Thuillier, qui pourtant n'a pas de compétences particulières en matière de radioactivité ou de BTP, parce que c'est quand même un immense trou qu'on va creuser, ou il n'est pas hydrogéologue, mais... En fait, lui, avec son côté scientifique, il a pu lire les 4 ou 5 000 pages de l'ANDRA et il a pu mettre à jour des failles scientifiques ou des questions techniques auxquelles l'ANDRA ne répondait pas dans ses dossiers. Et moi, ma manière de travailler là-dessus, ça a été plus de me dire, il y a tel sujet dont on ne parle pas, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Alors que ça paraît quand même un problème important. Et donc, ça a été, avec tous les gens avec lesquels, toutes les équipes dans lesquelles j'étais, Meuse Nature Environnement, Burstop, les gens qui étaient à la Maison de la Résistance, ça a été de se dire à qui est-ce qu'on pourrait demander de travailler cette question-là. Par exemple, une des dernières questions en date, c'est la question de la sismicité. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu de contact avec des gens qui auraient pu nous nous aider à comprendre les problèmes éventuels de sismicité. Mais on savait quand même que depuis le début, l'ANDRA, dans les premiers documents, avait gommé les deux failles sismiques, la faille de la Marne et la faille de Gondrecourt, qui entouraient le bloc d'argile dans lequel ils voulaient mettre les déchets radioactifs.
Quand alors, tu dis « ils ont gommé », c'est-à-dire sur les cartes, on voit…
gomme. Voilà, pardon, virtuel ou pas, mais ils ont gommé, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit les cartes, et puis bah, la zone dans laquelle ils voulaient travailler était absolument parfaite. Bah, sauf que non, parce qu'il y avait une faille, il y avait deux failles géologiques, la faille de la Marne et la faille de Gondrecourt, qui entouraient de très près le site, hein, c'est vraiment très très proche. Et puis, maintenant qu'on regarde un peu la sismicité, eh bien on sait que depuis, on a eu un tremblement de terre dont l'épicentre était à Épinal, et puis un autre, j'ai oublié où il était, mais à Remiremont, je crois, qui en fait ont eu des répercussions jusqu'ici. Nous, le séisme d'Épinal, on a senti ici la maison trembler. Et on est bien, encore bien plus loin de Bure que... Voilà, donc c'est un peu comme ça, en fait, que les choses se sont faites, en tout cas. Et moi, mon travail, c'est un peu comme d'autres, comme Angèle, par exemple, où, en fait, j'essaie de mettre en rapport des gens et puis de suivre ces gens qui ont la compétence... qui vont pouvoir étudier les dossiers. Et puis nous, ensuite, notre travail, c'est de bien comprendre tout ça, de voir comment on va pouvoir informer la population, parce que ça, c'est quand même primordial. Et puis après, nous, c'est aussi la mouche du coche, c'est-à-dire que on ne lâche pas l'ANDRA. On ne lâche pas les pouvoirs publics, on ne lâche pas le Haut Comité pour la transparence sur la sûreté nucléaire, parce que c'est à tous ces moments-là qu'il faut pouvoir dire « mais quand même ça, vous ne nous en avez pas parlé jusqu'à maintenant ». Pour donner un autre exemple qui est extrêmement percutant, il y a Gilles qui travaille aussi, voilà, qui est un expert dans son domaine, mais qui est surtout quelqu'un qui est féru des détails. Eh bien, c'est Gilles qui a vu le premier que dans les dossiers, notamment celui qui a été déposé à l'enquête, enfin, là, pour la demande d'utilité publique, donc déposé à l'enquête publique, eh bien, le stockage, donc la surface du stockage en profondeur, avait doublé de volume, sans que personne, sans que l'ANDRA n'en ait, par exemple, parlé au CLIS, donc au comité de liaison et de suivi local, sans que l'ANDRA n'ait dit, voilà, le stockage est passé de 15 km², okay, donc de surface en profondeur, à 29 km², pourquoi pas 30, mais bref, 29 km² en souterrain. Voilà. Et personne n'en a parlé, personne n'a dit, regardez, il y a un point important là, personne n'a expliqué pourquoi. Personne ne nous a dit ce qu'on allait en faire. Mais pourtant, sans le dire, au bout de presque 30 ans, on se permet de doubler la surface du stockage en profondeur.
Et ça, par exemple, vous êtes revenu vers l'ANDRA pour lui dire pourquoi vous avez doublé la surface ?
C'est une question qui est juste soulevée, puisqu'en fait, okay, c'est une question qui a, on va dire, un bon 6 mois. Quoi.
Ah oui, ok.
Donc, c'est une question plutôt nouvelle. Alors... Effectivement qu'on demande pourquoi, mais la réponse, c'est toujours des réponses vagues. Alors on sait qu'on pourrait y mettre des combustibles usés, puisqu'en fait les hypothèses étaient qu'au-delà de l'inventaire de référence, eh bien il y avait un inventaire de réserve, et puis que peut-être si le retraitement devait s'arrêter, si les réacteurs de quatrième génération ne se faisaient pas, eh bien les combustibles usés, qui étaient jusque-là des matières valorisables, qui le sont encore, pourraient devenir des déchets. Donc on sait que là, il y a une masse énorme de déchets qui pourraient arriver à Cigéo. Et puis on sait aussi que les FAVL, les faibles activités à vie longue n'ont toujours pas de site défini. Une partie pourrait aller à Soulaine, mais rien ne dit, ça a déjà été évoqué, qu'une partie ne viendrait pas à Cigéo. Et puis, il y a le nouveau programme EPR de Macron. Monsieur Macron ne sait toujours pas quoi faire de ses déchets, mais il envisage déjà, pour le nouveau programme, de les amener à Cigéo. Mmh. Donc en fait, ça paraît tellement logique de doubler le stockage.
Mais tout ça me semble... Quand j'écoute cette histoire, j'ai l'impression d'avoir en face des gens qui savent très bien où ils veulent aller, mais qui, en fait, ont décidé presque d'un scénario pour dire, bah alors d'abord on va dire ça, d'abord on va dire que c'est un labo, comme ça, ça va pas leur faire peur. Puis bon, en fait, bah après, on va quand même dire que c'est quand même là qu'on enfouit. Bon, d'abord, on va leur dire 15 km carrés, parce que autrement, ils vont penser que c'est trop gros. Et puis, à un moment, on va passer à 30, enfin... que tout est prévu dès le départ, mais qu'on l'annonce petit à petit pour pas avoir la levée de bouclier qu'on a eue dans les autres régions. Tu as cette impression-là aussi, toi, qui suis la lutte depuis longtemps ?
Moi, j'ai une double impression, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression qu'on navigue à vue.
Ah, ça c'est pire alors.
Oui. Et je ne suis pas la seule à avoir cette impression. Lenny Patineau, qui est un stagiaire qui a travaillé, donc, qui a fait son stage à l'ANDRA, l'a très bien montré. Qu'en fait, on sait très bien qu'il y aura des problèmes, mais c'est pas grave, on verra le moment venu. Enfin, c'est pas grave.
Ouais.
On verra le moment venu.
Oui. Et c'est qui ce Lenny ?
Lenny Patineau, c'est un stagiaire, faudrait. Sa thèse est disponible, hein, il a fait une thèse là-dessus. Et il a très bien montré qu'effectivement, même à l'ANDRA, on sait que les incertitudes existent, mais on va faire avec. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi le laboratoire, qui est là depuis 25 ans, n'est toujours pas en capacité de montrer la faisabilité technique du stockage. C'était quand même son objectif. Or, l'objectif n'est pas rempli, puisque il y a l'accident de 2016, par exemple, on en reparlera peut-être, et puis on a creusé très peu de galeries, et on n'a pas l'ensemble des réponses qui nous permettraient de dire « ça va se passer comme ça, et on va avoir tel et tel impact, et on a prévu telle ou telle démarche structurée, chiffrée, etc., pour pallier ces impacts ». On n'est pas capable, l'ANDRA n'est pas capable, n'a pas été capable au moment de la DUP de produire un dossier avec un contour, c'est-à-dire qu'on sait véritablement ce qu'est le projet, au moins une première, dans sa première phase, c'est-à-dire quels sont les déchets accueillis et comment on va s'en occuper. Actuellement, on ne sait pas quoi faire, enfin, on ne sait pas comment on va s'occuper des déchets bitumés. On ne sait pas complètement. Comment on va se préoccuper des problèmes de l'eau. Alors, en sachant qu'il y a deux problèmes graves, l'ennoyage potentiel du site, ce qui serait énorme.
Ah bah oui.
Ce qui serait absolument énorme. Et puis, la vitesse à laquelle les pollutions qui vont remonter à la surface pour être déversées dans les rivières locales vont atteindre, parce qu'on est en zone karstique, la rivière Marne a une vitesse très grande, très importante.
La zone karstique, c'est quoi, pardon ?
Une zone karstique, c'est une zone faillée qui fait que l'eau qu'on rejette dans les rivières s'infiltre dans le sol de manière telle, et dans la roche, en fait, qu'elle se disperse de manière extrêmement... compliqué, mais ce qu'on sait, c'est que toutes ces failles karstiques vont amener l'eau extrêmement vite dans la Marne, et qu'ensuite la Marne se jette dans la Seine, et ensuite dans la mer. Et que donc, actuellement, l'ANDRA n'est pas capable de donner des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu, au moment de la DUP, un projet dont on ne connaît pas les contours, et un projet dont on ne connaît pas les impacts. Et l'ANDRA nous dit « c'est pas grave, vous aurez plus de renseignements au moment de la demande d'autorisation de création ». Donc le dossier qui pourrait nous arriver dans quelques temps. Et puis de toute façon, il y a une phase pilote. Et pendant cette phase pilote, qui va durer quelques années, 10-15 ans, eh bien, on va continuer à explorer un certain nombre de choses, de problèmes techniques et scientifiques, pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions auxquelles le laboratoire n'a pas répondu.
Mais a servi à quoi ce laboratoire alors ?
Eh bien, le laboratoire, je pense qu'il a quand même servi à quelque chose, parce que c'est tellement complexe de gérer des déchets radioactifs et surtout de vouloir le faire à 500 mètres sous terre. Il a fait progresser les connaissances dans ce domaine, mais il n'a pas répondu complètement à la question.
Okay.
Alors pourquoi veut-on se précipiter à créer la phase industrielle du projet, hein, puisque là on arriverait dans la première phase industrielle, où on engloutirait la quasi-totalité des provisions financières qu'on a faites, enfin, que les producteurs de déchets ont faites, pour la totalité des 130 ans minimum que durerait le stockage, dans cette phase pilote, alors que théoriquement, ça n'est qu'une phase pour continuer le travail qui n'a pas été finalisé dans le labo.
Alors, si je comprends bien ce que tu viens de dire, c'est que l'argent qu'a provisionné EDF, Orano et le CEA partirait tout. Tout cet argent provisionné partirait dans la phase pilote, qui serait donc une phase pour valider, mais il n'y aurait plus d'argent après pour le faire. Enfin...
Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, les provisions... En fait, la phase pilote coûterait un peu plus de 5 milliards d'euros. Ces 5 milliards d'euros, c'est l'argent qui est théoriquement disponible actuellement si on voulait démarrer demain la construction. Alors, à ceci près que quelqu'un comme Romain, par exemple, qui nous a beaucoup aidés dans beaucoup de domaines, la géothermie, l'hydrologie, c'est lui qui a mis à jour tous les problèmes liés à l'eau et puis qui a beaucoup travaillé aussi sur le coût du stockage, le coût et le financement. Alors, le financement, c'est comment est-ce qu'on met cet argent sur la table. Alors, le financement, il y a peut-être un peu d'argent sonnant et trébuchant qui peut être mis sur la table, mais ce sont surtout des actifs financiers cotés en bourse et que qui, d'une année sur l'autre, etc., approvisionne en fait le financement de ce que font les producteurs de déchets et donc Cigéo. Sauf que ces actifs cotés en bourse, ils sont un peu les uns chez les autres quand même. Hein. C'est-à-dire que ce qui n'est pas chez EDF est peut-être un peu chez Orano, etc. Et puis surtout, ils sont surcotés. Les actions des acteurs du nucléaire actuellement sont plutôt des actions qui rémunèrent de manière négative, c'est-à-dire que le cours de ces actions ne cesse de chuter. Et d'ailleurs, quand on fait une déclaration publique, ça permet de faire remonter le cours des actions. Ça, c'est Romain qui s'était rendu compte de ça.
Incroyable.
Et donc, dans un contexte perturbé comme on est actuellement, c'est-à-dire un contexte de raréfaction des matières premières, de raréfaction des ressources humaines, notamment dans le domaine du nucléaire, de raréfaction de l'énergie, avec une augmentation générale des prix, avec une inflation difficilement maîtrisable, comment est-ce qu'on peut imaginer mettre autant d'argent dans une phase pilote, c'est-à-dire une première phase industrielle, alors qu'on ne sait pas répondre à la question de la faisabilité du stockage ?
Oui, ça semble assez, assez incroyable. Mais bon, on en revient à ce que me disait hier Corinne, c'est si ce projet-là ne se fait pas, l'industrie nucléaire met la clé sous la porte, parce que les piscines débordent à La Hague et que... Enfin, il y a un besoin, quelque part, vital pour cette industrie de creuser ce trou.
Alors, il y a un besoin vital de creuser ce trou, non.
Ah.
Parce que c'est peut-être pas un trou qu'il faut creuser, déjà. Romain, entre autres, qui est à la fois hydrogéologue et ingénieur BTP. Ça, c'est pas mal pour un projet comme CIGEO. En fait, est bien persuadé. Moi, je le suis aussi parce que ça paraît tellement évident que gérer en très grande profondeur, c'est très compliqué. Parce qu'il faut traverser des couches à n'en plus finir, parce que certaines couches sont des aquifères, parce que en profondeur, s'il y a un accident, c'est très compliqué de réagir. Donc en grande profondeur, c'est probablement une connerie gigantesque. Donc après, comment est-ce qu'il faut gérer les déchets ? Les déchets, ils sont là. On est quand même en capacité de les conditionner et de les reconditionner. C'est-à-dire que, au moins pour une centaine d'années, voire plus, on est en capacité de se prémunir du danger que sont les déchets radioactifs. Donc l'important, c'est d'abord de ne pas continuer d'en produire, et après, c'est de se mettre autour d'une table. À partir du moment où on aura décidé de s'arrêter, on aura beaucoup plus facile de mettre tout le monde autour d'une table, y compris la société civile qui n'en veut pas autour de chez elle, pour dire, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait de cela ? Ils sont déjà chez quelqu'un, ils sont déjà dans un territoire. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas les concentrer déjà en un seul point ? Parce qu'on concentre les dangers.
Bien sûr.
On doit les transporter partout. C'est-à-dire que le transport, c'est un danger aussi énorme. Et comment est-ce qu'on fait pour que leur stockage à long terme n'handicape pas les générations qui vont nous suivre et puis soit pleinement accepté par les gens qui vont devoir vivre à côté.
Non, mais c'est sûr que le... Enfin, moi, à chaque fois que j'entends parler de stockage en subsurface... je me dis, bah oui, plutôt que de le mettre à 500 mètres en profondeur, surveiller le lait sur le feu, je ne vais pas le mettre à 500 mètres au fond d'un trou.
Ça paraît tellement évident. Mais oui. Ça paraît tellement évident.
Tout à l'heure, tu l'as évoqué, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'en ai pas parlé dans ces interviews. Tu parlais de l'accident
de
2016. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ?
Alors, en fait, l'accident de 2016, c'est l'effondrement d'une galerie qui était creusée au tunnelier. Et l'effondrement donc a tué une personne et blessé gravement une autre et fait fuir une grande partie de l'équipe qui travaillait sur le site. C'est-à-dire qu'elle a du jour au lendemain bouclé ses valises et elle est repartie. Alors cet accident de 2016, on n'en a jamais eu une explication technique et scientifique. Enfin, l'ANDRA ne nous a jamais expliqué clairement pourquoi, à l'angle à 90 de deux galeries, ils avaient été surpris de cet éboulement et pourquoi maintenant ils prennent des précautions particulières lorsqu'il y a des galeries orthogonales. Voilà. Alors, on a des hypothèses, nous, mais qui n'ont jamais été validées et qui, en tout cas, pas validées par l'ANDRA. Et on espérait beaucoup que cette affaire qui est au pénal, puisqu'il y a eu mort d'homme, eh bien, soit jugée quand même rapidement et instruite surtout. C'est-à-dire que le dossier d'instruction permette de comprendre pourquoi la galerie s'est effondrée, de dégager évidemment les responsabilités, puisqu'il y a eu la mort d'un homme et un autre gravement blessé, et puis surtout ce que ça signifiait aussi pour le stockage. Alors nous, on a des hypothèses, parce que là encore, il y a des choses bizarres. Par exemple, dans les premiers dossiers, l'ANDRA travaillait à la machine à attaque ponctuelle, comme une espèce de grande pelle qui attaque le front de taille. Là, maintenant, ils ne travaillent plus comme ça. Ils travaillent, alors évidemment, ils entament toujours le front de taille, mais ils mettent des grands, ce qu'ils appellent des voussoirs, sont des grands cercles de béton qui retiennent donc la poussée de la roche Ils font des tunnels, ouais. Voilà, ils travaillent au tunnelier, ils font des tunnels. Et en fait, la différence entre les deux méthodes, entre la machine à attaque ponctuelle qui a été abandonnée, sans qu'ils le disent d'ailleurs aussi dans les dossiers, okay. Les dossiers qui ont suivi ne le mentionnaient pas, okay. Et pourtant ils sont passés au tunnelier. En fait, la différence entre les deux méthodes, c'est que la machine à attaque ponctuelle est beaucoup plus lente que le tunnelier, donc elle est beaucoup plus coûteuse aussi, mm-hmm. Notamment parce que, voilà, après il faut faire le tunnel. Et puis, la différence aussi, c'est que la machine à attaque ponctuelle ne fragilisait beaucoup moins la roche que la machine, okay. Que le tunnelier. Okay. Et donc, c'est important à deux niveaux. C'est que d'une part, quand on fragilise la roche, elle peut s'effondrer. Et,
oui.
Et puis aussi, on la déstructure. Et si on la déstructure au moment où on creuse les galeries et les alvéoles de stockage... Eh ben, on a un stockage qui n'est plus dans un coffre-fort de roche.
Oui, comme on nous l'annonce.
Comme on nous l'annonce en permanence. Donc c'est quand même extrêmement important. Et la deuxième hypothèse par rapport à l'accident de 2016, c'est que il y a des poussées géologiques. D'ailleurs, les gens qui sont descendus à 500 mètres sous terre disent que ça bouge. Qu'ils ont parfois senti que ça bougeait. Et effectivement, la roche en profondeur, enfin les couches géologiques profondes, ne sont pas inertes. Ce sont des choses qui bougent. Mmh. Et il y a notamment à Bure deux poussées géologiques, enfin deux poussées sismologiques, enfin je ne sais pas comment on peut le dire, enfin, qui s'exercent. Et il est possible que les conflits entre ces deux poussées, il y a la poussée des Alpes et puis une autre, voilà, puissent provoquer en fait également des fragilisations de la roche, notamment si on la déstructure au moment des travaux.
Et cette instruction, alors, elle en est où ?
Eh ben, on n'en sait rien. Il n'y a rien qui bouge et on est 7 ans après. Non.
6 ans, ouais,
ouais, presque 7 ans après.
Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable pour les familles, surtout.
Et puis aussi pour le stockage, parce que c'est quand même quelque chose auquel... Enfin, c'est vraiment un élément. Ça s'est produit, cet accident, au bout du creusement de 1,7 km de galerie. Même pas 2 km. Et on doit creuser 165 km de galerie, à moins que ça ne soit le double.
Oui, oui, moi j'ai entendu, oui, 290, ou je sais pas.
Oui, eh ben oui.
Si enfin, comme le projet est flou, en fait, il y a plusieurs chiffres qui circulent, en fait.
Bah, il y avait un premier chiffre, qui était, si je ne m'abuse, c'était l'étendue du métro parisien.
Oui, ça j'ai entendu ça.
Voilà, voilà. Ça donne une image quand même de l'ampleur des choses. Et puis, si effectivement le nucléaire continue ses ravages... Eh ben, on peut avoir le double. Parce qu'une fois qu'on tient un site, on ne le lâche plus. Parce qu'en fait, c'est tellement difficile d'implanter un site de ce type, tellement cher aussi, mais tellement difficile aussi sur le plan de l'acceptabilité sociale, qu'une fois qu'on le tient, même si ça n'est pas un bon site, eh ben, on va continuer sur le même site.
Tout à l'heure, tu as parlé de géothermie.
Alors, la géothermie, ben, c'est la chaleur qu'on retire du sous-sol et qui permet d'alimenter, par exemple, des réseaux de chaleur.
Pourquoi c'est une question qui apparaît dans CIGEO ?
Alors, cette question-là, elle apparaît dans CIGEO tout simplement parce que il ne faudrait pas que nos descendants à l'avenir aillent percer le sous-sol pour chercher quelque chose. Alors maintenant, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la géothermie, ça peut être des ressources minières, on en parle beaucoup en ce moment, hein, puisqu'on parle de réindustrialiser la France, et ça serait bien normal qu'on trouve nos ressources chez nous. Donc effectivement, on aura besoin de ressources minières. Et sauf que là, on ne peut pas percer le stockage CIGEO, sinon c'est l'enfer. Hein, c'est 99,99% de la radioactivité totale produite par les centrales nucléaires qui sont concentrées au même endroit. Donc c'est gigantesque. On veut condamner le territoire ici à être dans ce fameux triangle des déchets, des stockages de déchets à vie courte, à vie longue, faiblement actif, hautement actif, etc. Voilà. Donc qui va de la Meuse et tout près des Vosges en passant par la Haute-Marne et l'Aube. Voilà, on est un peu le triangle des déchets radioactifs, si CIGEO se fait. De même que, par exemple, on a condamné le Cotentin avec la Hague, où on a condamné la vallée du Rhône à être une vallée nucléaire. Alors que, par rapport à la géothermie, et justement parce qu'il y a le risque de percer ce stockage, l'autorité de sûreté nucléaire avait bien dit qu'il ne fallait pas que un stockage nucléaire condamne une ressource importante, donc notamment énergétique, et avait mentionné explicitement la géothermie. Alors ça veut dire qu'en fait, ce territoire qui est le nôtre, on ne lui laisse pas le choix entre devenir un territoire de stockage et donc la poursuite du nucléaire, puisque ce serait grâce à ça qu'on pourrait continuer le nucléaire, alors que nous, on aurait le choix de devenir un département vert, entre guillemets, c'est-à-dire un département où, entre autres, on pourrait tirer du sous-sol une ressource thermique importante, et Dieu sait qu'on en a besoin. Alors, pas seulement parce qu'on extrait de la chaleur, mais parce qu'avec cette chaleur extrêmement profonde, et c'est le cas à Bure, on pourrait probablement faire de l'électricité. C'est-à-dire ce qu'on veut faire dans les centrales nucléaires. Donc quel choix on nous propose ? On ne nous demande pas notre avis. On s'assoit sur la règle fondamentale de sûreté de l'autorité de sûreté nucléaire pour faire à Bure un stockage en grande profondeur qu'on ne sait pas faire pour pouvoir poursuivre un nucléaire qu'on devrait arrêter.
On marche sur la tête. Oui, je reviens sur cette DUP, là, où tu dis, donc l'ANDRA amène un dossier qui est vague, flou, on comprend même pas le contour. Comment on peut donner comment on peut déclarer d'utilité publique un projet aussi flou ? Comment tu le comprends, ça ? C'est qui, d'abord, qui regarde cette DUP ? Ça, je sais plus, moi.
En fait, le dossier qui a été déposé est un dossier absolument indigent. C'est-à-dire que l'ANDRA a mis sur le papier, de manière un peu plus claire pour le grand public, le peu qu'elle avait donné jusqu'à maintenant. Ça a été examiné par une commission d'enquête, donc de plusieurs personnes, je ne sais plus, ils étaient 4 ou 6 je crois, qui en fait, dans son bilan, dans ses conclusions à l'enquête, n'a fait que recracher le discours de l'ANDRA. Avec des inexactitudes énormes, comme par exemple, pour parler du coût qui n'avait pas été réévalué et qui n'était pas donné dans le dossier, la commission d'enquête a parlé de plus de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire en fait du coût de la phase pilote, alors que le projet au bas mot coûtera plus de 40 milliards d'euros, puisque nous, on l'a estimé à partir des chiffres qui étaient déjà donnés à plus de 40 milliards d'euros. Donc c'est une bourde énorme. C'est-à-dire qu'on a une commission d'enquête qui n'a pas su lire le coût du projet et qui a réduit le coût du projet au coût de la première phase pilote. Et ce qui est énorme aussi, c'est que dans les conclusions de l'enquête, la commission d'enquête n'a absolument pas relevé un certain nombre de contributions très précises que nous avions données. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des gens qui regardent un peu ce projet. Et en particulier, par exemple, le doublement de la surface de stockage en souterrain. Ça, on l'a donné à l'enquête, par exemple.
Et cette, donc les 4 à 6 personnes, là, les 6 personnes, c'est qui en fait? C'est des hauts fonctionnaires? C'est qui?
Non, c'est des gens, en fait, les commissaires enquêteurs sont des gens qui sont censés avoir un minimum de compétences pour lire un dossier et produire un rapport. Ils sont validés par le tribunal administratif. Donc, c'est quand même des gens qui... Voilà. Donc, ce sont souvent des gens qui ont travaillé dans la fonction publique, c'est vrai. Parce que dans la fonction publique, ben, on a l'habitude hein, des dossiers administratifs. Mais le tribunal administratif doit vérifier le fait qu'ils ne sont pas juges et parties.
Ben oui.
Voilà. Notamment pour tous les dossiers sensibles. Mais même puisqu'ils sont censés donner un regard... impartial, ce qui n'a absolument pas été leur cas, hein, puisque tout ce qu'ils ont pu dire n'a jamais été la production de leur réflexion en propre, mais ça a été de recracher ce qui était dans les dossiers de l'ANDRA. C'est pas ce qu'on leur demande.
On connaît leur nom, on sait qui c'est.
Ah oui, on connaît leur nom. Oui, oui. Moi, je pourrais pas les redonner, mais okay, je les ai pas mémorisés. Mais oui, bien sûr.
D'accord, c'est pas secret, quoi.
Ah ben non. On pouvait les rencontrer.
Ok.
Lors des différentes ouvertures de l'enquête publique, il était possible de rencontrer la commission d'enquête.
D'accord. Et donc ça, ce travail, c'était quand quand est-ce qu'ils ont rendu leur expertise?
Un peu avant juillet, je crois.
Okay. Et donc là, on attend la DAC, c'est ça? La demande d'autorisation
Oui, maintenant, on attend la demande d'autorisation de création. Donc, qui est censé fournir toutes les réponses que l'ANDRA n'a jamais fournies jusqu'à maintenant.
Ah, enfin.
Enfin. Peut-être.
Ouais.
Il n'y a rien de moins sûr. Ouais. Et c'est un dossier, on l'imagine énorme. Si elle doit répondre à toutes les questions auxquelles elle n'a pas encore répondu. Normalement, l'instruction de ce dossier devrait durer 4 à 5 ans.
Et pendant ce temps, ils vont faire quoi, alors?
Alors, pour revenir à la DUP, ouais. Et pourquoi on a très vite voulu... Enfin, les pouvoirs publics ont très vite voulu cette déclaration d'utilité publique. Pour moi, en tout cas, mais ça ne vaut que ma réflexion à moi, c'est qu'il faut dire que le projet avance. Parce que c'est la principale question qui reste encore... sur le nucléaire et qui est reprise par tous les médias, c'est on ne sait pas encore ce que deviendront les déchets. Mmh. Et donc, si on pouvait répondre qu'on a enfin la solution miracle, ce serait merveilleux. Et donc, il ne faut pas laisser le terrain aux opposants. Okay. Il faut absolument faire croire que le projet avance et qu'il est tout à fait dans les clous. La preuve, c'est qu'on a été capable de le déclarer d'utilité publique, alors qu'il ne répond absolument pas aux critères qui sont ceux de l'utilité publique.
Puis j'ai vu aussi qu'une fois qu'un projet était déclaré d'utilité publique, en fait, il y avait des moyens légaux très forts qui pouvaient être mobilisés, comme l'expropriation et tout ça. Enfin...
Oui, une fois que... Alors, une double déclaration, il y a eu celle de l'utilité publique et celle de l'opération d'intérêt national. Alors, en fait, la conjonction de ces deux décrets fait que, d'une part, l'ANDRA peut exproprier partout où bon lui semble, puisqu'elle a besoin de ces terrains, donc pour construire le projet... et notamment la phase pilote. Et puis, toutes les décisions d'urbanisme, tout ce qui touche en fait, parce que l'urbanisme c'est fondamental, en fait, tout ce qui touche au développement local, économique, social, etc., local, va repasser par des instances qui ne sont plus les instances locales, communales, intercommunales, etc. Donc, en fait, les élus du coin sont dépossédés de leur pouvoir de décision dans pas mal de domaines. On peut imaginer, par exemple, vous voulez faire un gîte rural dans l'un des 5 villages proches du site. eh ben on peut vous le refuser parce qu'il ne faut pas que des gens viennent tourner autour de CIGEO, par exemple. Nous, on est persuadés que la zone des 5 villages qui entourent le site est une zone condamnée à terme. D'ailleurs, l'ANDRA aimerait bien faire main basse sur toutes les maisons, les terrains, etc. qui se vendent dans le coin.
Et donc là, avec cette déclaration d'intérêt national et la DUP, maintenant ils en ont le pouvoir.
Ils en ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de refuser... Alors, ils ont le pouvoir d'implanter CIGEO, comme ils le veulent maintenant, puisqu'ils sont seuls à en décider. Et puis, ils ont le pouvoir de refuser tout projet qui ne leur plairait pas dans la zone considérée.
Ok, le train est en marche, ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des questions d'eau. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu ?
Je ne maîtrise pas plus que ça le sujet. Okay. Bon, on en a parlé un petit peu. Enfin, pour moi, la grosse question, c'est que va-t-il se passer quand on va creuser ? Et que pourrait-il se passer à partir du moment où les déchets radioactifs arriveraient sur le site avec le risque d'ennoyage du site ? Il faut imaginer ce que c'est. Hein. Avec la descenderie, avec les puits, on a des possibilités d'arrivée d'eau dans le stockage et un pompage permanent qui ne devra jamais défaillir. Donc il ne faut jamais qu'il y ait de panne de courant, etc. C'est impossible.
Sur 150.
Jamais d'appareil qui tombe en panne. Alors qu'on a un dossier, par exemple, qui ne chiffre pas la jouvence des installations. Toute installation vieillit, il faut régulièrement la refaire à neuf. Et puis elle vieillit d'autant plus qu'elle est soumise à des contraintes chimiques et radioactives, ce qui va être le cas à CIGEO.
Mais c'est des grands malades.
C'est un problème énorme, la jouvence des installations. On le voit avec le parc nucléaire, hein, qui est en maintenance. On a bien vu qu'on était capable d'arrêter la moitié du parc nucléaire pour de la maintenance.
Et elles n'ont que 50 ans. Enfin non, d'ailleurs, elles ont 40 ans, ces centrales,
oui.
Pour la plupart. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Donc, il y avait l'accident.
Moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément. Quels que soient les projets industriels sales ou les projets nucléaires, c'est que non seulement... Pendant la mise en œuvre de ces industries, on martyrise les populations locales. Mais lorsqu'il arrive un accident, on les laisse carrément tomber, quoi. J'en veux pour preuve, par exemple, Tchernobyl et Fukushima. Mais pas que, il y a plein d'autres exemples. Tchernobyl... les Russes ont fait pleuvoir la pollution de Tchernobyl, la toute première, quand ça crachait énormément, ils l'ont fait pleuvoir sur des zones faiblement peuplées. Parce qu'il ne fallait surtout pas que ça atteigne les villes proches ou que ça atteigne des villes comme Moscou. Voilà. Donc l'armée... a les moyens de faire pleuvoir sur des zones faiblement peuplées. Et puis après, avec le temps, les fake news sont capables de tout gommer. Par exemple, à Tchernobyl, il y a eu moins d'une centaine de victimes. Mmh. Alors que on a des territoires qui sont actuellement extrêmement contaminés, en Biélorussie, en Ukraine, en Russie aussi, quelques territoires, où les populations ont donc leurs yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'elles sont malades, elles, les adultes, mais ce sont les enfants qui sont le plus malades. Des enfants qui n'atteignent pas l'âge adulte ou qui savent que peut-être, parce qu'il y a déjà eu des énormités, enfin des malformations absolument dramatiques, savent qu'elles peuvent mettre au monde, si leur grossesse arrive à terme, des enfants mal formés. et des enfants dont l'espérance de vie est quasiment nulle. Donc c'est tout ça en fait. On est capable par exemple de faire des reportages. Il y a eu un reportage sur, qui est passé sur Arte sur la zone de Tchernobyl, où en fait on avait l'impression que Tchernobyl c'était merveilleux. C'était un endroit qui avait été rendu à la nature. Et que la nature y vivait pas si mal que ça. Il y avait tous les prédateurs qui étaient revenus, le loup, etc. Sauf qu'on n'a pas étudié si les animaux étaient malades et ce que devenait leur descendance. Alors que quand on pratique par exemple des études sur la descendance des souris, on est capable de mettre en évidence qu'il y a des malformations extrêmement importantes. Parce que le cycle de reproduction est tellement rapide qu'on est capable de voir sur une dizaine ou une quinzaine de générations ce que ça produit. Mais qui est-ce qui a étudié ça actuellement ? Alors c'est sûr que la nature a repris ses droits, que la nature est résiliente, mais dans quel état de santé ? On ne le sait pas, absolument pas. Et bon, il y a d'autres choses, comme par exemple à Fukushima, on a cessé toutes les aides aux populations qui ne veulent pas revenir dans les zones contaminées. Et puis, on demande aux Japonais de consommer les produits qui sont... Enfin, puisque c'était une zone de production fruitière et maraîchère, de consommer les produits de cette zone-là par patriotisme, par solidarité. En occultant le fait que tout le monde en prend un petit peu. Certes, on soutient ces populations, mais pour qu'elles continuent à produire et à vivre mal dans les régions contaminées, et puis on contamine le reste de la planète avec les produits alimentaires ou avec les rejets dans l'eau du Pacifique. C'est quand même extraordinaire. De toute façon, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui a voulu assurer le nucléaire. C'est l'État qui assure le nucléaire. Et l'État nous laissera tomber quand il arrivera un accident. C'est évident. Parce que de toute façon, il ne pourra pas faire autrement. On ne sait pas soigner un accident nucléaire.
Non, mais j'avais vu effectivement, c'est Bernard qui m'en avait parlé... sur le moment décisif aux États-Unis où effectivement aucune compagnie ne veut soutenir le projet nucléaire, enfin le programme nucléaire, et donc l'État prend en compte ce risque et que c'est le moment décisif parce qu'autrement en fait aucun programme nucléaire n'aurait vu le jour nulle part quoi. Y a autre chose dont tu voulais parler, c'est ta phrase de tout à l'heure qui est le nucléaire se permet tout. Qu'est-ce que tu entends par là?
Alors, le nucléaire se permet tout. Moi, qui suis dans l'environnement, qui regarde des projets à l'enquête publique, quels qu'ils soient, petits comme gros, ça peut m'arriver, j'ai toujours regardé un projet qui était expliqué. Ce qui a disparu, mais que moi, j'avais constaté il y a une trentaine d'années, c'est qu'en fait, quand on mettait sur la table un projet... On expliquait aussi qu'on avait étudié des alternatives, mais que ces alternatives n'avaient pas les qualités requises pour être retenues et que donc on retenait ce projet. C'est-à-dire qu'on discutait le projet. Et ensuite, on donnait ses impacts et puis on pouvait donner un avis à l'enquête sur le projet. Actuellement, on n'en est pas là, puisqu'en fait, l'ANDRA... a inventé le concept d'étude d'impact itérative, c'est-à-dire qui se fait au fur et à mesure que le projet avance. Donc on est, nous, avec un projet dont on ne connaît pas les contours, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le trou, on ne sait pas comment il va être creusé en toute sécurité, on ne sait pas comment les risques vont être maîtrisés, etc. Donc ça, on ne sait pas. Et malgré tout, on donne l'utilité publique et on va déposer une demande d'autorisation de création. Et puis, on a complètement dévoyé le débat public, c'est-à-dire qu'on n'a jamais débattu autant qu'autour de CIGEO. Et d'ailleurs, les débats publics progressent en France, c'est vrai. Mais il y a une chose qui ne progresse pas au moment des débats publics, c'est le fait que ces débats publics puissent influencer la décision sur le projet. On est en fait sur des projets qui sont décidés avant, et quoi qu'on puisse dire, quoi que puissent être les risques, on sait que de toute façon, c'est ce projet-là qui va passer, et pas un autre. Et puis, d'ailleurs, on ne sait même pas quel projet va passer pour Cigéo.
Oui, en plus.
Donc, en fait, on est complètement... C'est de la schizophrénie, quoi. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Le terme itératif, moi qui suis une littéraire, je ne le connaissais même pas. Il a fallu que j'aille voir ce que c'était pour comprendre ce qu'était une étude d'impact itérative. Normalement, une étude d'impact, c'est un dossier complet déposé au moment de l'étude d'impact et dont on peut juger de l'ampleur et des conséquences. Et normalement, la loi demande à ce que la Convention d'Aarhus, etc., les lois européennes et les lois françaises demandent à ce que le public ait tous les éléments pour pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause. Eh bien, on n'est pas là du tout avec Cigéo.
Et de toutes les dupes que tu as vues, en fait, il n'y a que le nucléaire qui se permet ça, c'est ça ?
Ah, c'est la première fois que je vois ça, clairement. C'est la première fois que je vois ça. Alors, peut-être que les copains sur d'autres projets nucléaires ont déjà vécu ça, mais moi, ça ne m'est jamais revenu aux oreilles qu'on puisse le faire de cette manière-là. Mm-hmm. Jamais.
Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder dont on ne parle pas assez à ton goût ?
Il y a peut-être la réaction des élus locaux. Je trouve que c'est étonnant ce qui se passe en Meuse, c'est-à-dire que on est un département reculé, c'est vrai, on est peu peuplé. On est un département qui perd progressivement, moi je l'ai vu parce que j'ai travaillé comme formatrice en secourisme dans l'industrie, donc j'ai vu les industries partir ici du département. C'est vrai que pendant longtemps, il y avait tellement peu d'argent sur le département que c'était un département qui dormait beaucoup, enfin, qui était d'un calme extraordinaire. Moi, je viens de Dunkerque, du Nord. C'est un département qui bouge. Là, je trouvais que le département était d'un calme qui me faisait beaucoup de bien, d'ailleurs. Mais je comprends la réaction des élus quand on leur a proposé un laboratoire, ce qu'ils ont cru sur parole, en voyant arriver finalement de l'argent sur le département, puisqu'on avait fait de belles promesses d'argent et de belles promesses d'emploi. Donc les deux choses dont éventuellement le département pouvait manquer. Même si moi je considère que ce dont le département manquait le plus à l'époque, c'est d'imagination et de pouvoir de faire. En fait, on avait tous ce pouvoir de faire beaucoup mieux, mais encore aurait-il fallu que les forces collectives soient mises en musique pour que ce département vive différemment. Et en fait, ce que j'ai vu pendant des années, c'est alors même qu'on donnait énormément d'informations, alors même qu'on mobilisait les populations, on ne voyait pas beaucoup d'élus dans la mobilisation. En tout cas, il y en avait, puisqu'il y a même une association d'élus. Mais on n'avait pas un soulèvement des élus avec les fourches comme à la campagne, quoi. Mais, et ça a basculé tout récemment. Ça a basculé au moment de la DUP, où en fait, les élus, à qui on a quand même beaucoup donné d'informations avant la DUP, ont réagi différemment de ce qu'il... Il y a eu des délibérations qui ont été extrêmement fortes. La commune de Bure, par exemple, qui parle du rouleau compresseur de l'Andra. Et en fait, ça s'est traduit par un peu moins d'une trentaine d'avis des collectivités, donc communes, intercommunalités, syndicats des eaux, par exemple. Il n'y a eu que deux avis favorables sans réserve, donc le conseil départemental de la Haute-Marne et le conseil régional du Grand Est. Tous les autres avis ont été des avis avec réserve ou des avis qui demandaient plus d'informations. Quand je parle de réserve et de demande d'explication, c'était dans des domaines, il y avait une quinzaine de thématiques diverses. Okay. Depuis les camions qui allaient passer par les villages, en passant par les problèmes de l'eau, etc., il y avait la totalité des inquiétudes qu'on peut exprimer sur ce projet. Ces inquiétudes qui n'avaient pas été données de la même façon. C'est-à-dire que les élus, il faudrait d'ailleurs distinguer deux sortes d'élus, il faudrait les grands élus et les petits élus, si je puis dire. Okay. C'est-à-dire les grands élus, c'est ceux qui veulent... un pôle d'excellence nucléaire en Meuse. Et les élus de nos campagnes, les élus des villages et des bourgs, c'est qu'est-ce qui va arriver pour nos populations.
Bien sûr.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait obtenir de ce projet pour faire que nos populations retrouvent de l'emploi et puis aient envie de continuer à habiter dans nos villages. Voilà, ça c'est les préoccupations des élus locaux. Et là, cette fois... Et ils n'étaient plus demandeurs d'emploi, demandeurs d'argent, demandeurs de développement. Ils étaient dans l'inquiétude. Okay. Comment ça va se passer pour nous avec cet énorme chantier BTP? Et puis par la suite, mais c'est encore un sujet tabou avec la radioactivité. C'est encore un sujet qui n'est pas développé, malheureusement. Mmh. Il est moins immédiat, il est moins concret, il est invisible.
Qu'est-ce que tu trouves réjouissant dans cette lutte?
Moi, ce que je trouve réjouissant, c'est la force collective. C'est le fait de côtoyer des gens tellement différents, tellement motivés, et maintenant tellement jeunes, que je trouve que c'est fabuleux, en fait. Il y a une énergie, il y a une force de vie qui est arrivé avec la lutte, qui est extraordinaire. Et puis nous, ça nous... On découvre à quel point ce département, il faut qu'on le fasse vivre d'une manière différente. Et voilà. Et il est en train de bouger, ce département. Il faut vraiment qu'il soit en train de bouger de manière positive. Voilà. Il faut maintenant construire notre avenir sans le nucléaire et sans CIGEO. Ça, c'est clairement un objectif. Il ne faut pas que CIGEO nous broie. Il faut vraiment que CIGEO nous donne la force de construire un avenir tel qu'on le souhaite, c'est-à-dire un avenir beau, avec nos enfants près de nous. Par exemple, la Meuse, quand elle se vide, c'est dramatique pour nous. Et il faut qu'on mette en place de beaux projets où les gens aient envie de s'investir, mobiliser toute cette énergie collective.
Quand tu dis des gens si différents, c'est-à-dire ?
Ce sont des gens qui viennent de partout, des jeunes comme des moins jeunes, des gens qui travaillent dans tous les domaines, comme des gens qui consacrent leur vie à lutter contre CIGEO ou d'autres luttes. C'est des gens qui ont des compétences ou qui n'en ont pas, des gens qui vont faire la tambouille parce qu'il faut nourrir la troupe. Des gens de partout. Et ça, c'est magique.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Régine, pour ce temps. Merci beaucoup pour ton expertise, hein, parce que quand même, on sent que tu as bossé les dossiers.
Un généraliste, quand même.
Ouais, mais bon, il en faut aussi, quoi. Enfin, chacun son rôle, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.
Merci à toi, vraiment. Merci.
Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.